Introduce my colleague Sébastien Mignot, who is an associate professor here at the University of Colmar-Normandie in the LEA department. He's also a member of the Arrivia team. He specializes in the study of LGBTQ plus identities and sexualities in US TV series. His doctoral research focused on the emergence of a new representational paradigm known as post-closet, and you can see in post-placard on his slide, which he's going to tell us more about in a minute. Last time we were talking about the importance of société savante, or professional associations. So Valérie was here from the SAGEF. Sébastien sits on the board of the Association Française des Études Américaines. And so it's another example of a professional association that organizes a yearly conference and scholarships. And Sébastien is also one of our university's référents for the Institut des Amériques, which is a special structure that also promotes American studies in France. It also gives scholarships. So two things you might want to check out, the AFOA and the Institut des Amériques. Okay, Sébastien, we're ready to listen to you.
Merci. Bon, j'ai décidé de faire cette présentation en français. J'espère que vous me le pardonnerez. Mais je pourrais prendre des questions à la fois en français et en anglais, j'y répondrai avec plaisir. Donc bonjour à toutes et à tous. J'aimerais tout d'abord remercier Armel qui chapeaute l'organisation du séminaire Arrivia et Amy d'avoir gentiment accepté de modérer la séance d'aujourd'hui. Donc je vais évoquer avec vous le cœur de mon travail de thèse et un peu plus peut-être si on a le temps, qui portait donc sur la notion de post-placard que je vais m'employer à définir plus avant dans un instant. J'admets avoir eu quelques difficultés à me prêter à cet exercice de synthèse. 45 minutes, c'est à la fois beaucoup et pas assez. On va voir ce qu'on peut faire. Donc, dans ma thèse, je me suis intéressé au déploiement d'un paradigme de représentation post-placard. L'expression n'est pas de moi, elle a été créée par Ron Becker et fait référence à un bouleversement dans les modalités de représentation des personnages LGBTQ+, à la télévision, mais cette analyse peut être étendue au cinéma. Pour situer, mon analyse était circonscrite mon doctorat aux personnages d'hommes gays cisgenres, principalement, et mon travail s'est concentré sur les séries télévisées. L'histoire du médium télévisuel est singulière et la modélisation des identités rendue possible par la sérialité de l'objet série possède des caractéristiques distinctives. Si le sujet vous intéresse, vous pouvez bien entendu lire ma thèse en ligne et aussi celle d'Audrey Hensler. Hensler d'ailleurs, c'est la française, qui est spécialiste aussi de la question et a étendu l'analyse de manière plus inclusive à une plus grande diversité d'identités. Donc de manière générale, ma recherche étudie l'histoire des schémas de représentation des identités LGBTQ+, et leurs évolutions. Le placard a longtemps occupé à cet égard une place centrale, si bien que Susanna Denuta Walters l'a qualifié, avec son corollaire, le coming out, de « master narrative », que l'on pourrait traduire par « récit dominant » en français. En effet, pendant très longtemps, la métaphore, ou ce que l'on pourrait appeler le paradigme du placard, a infléchi les récits dans lesquels figuraient les personnages gays et lesbiens, et dans une moindre mesure, bien moindre mesure à l'époque, les personnages trans qui sont demeurés invisibles dans le paysage télévisuel états-unien plus longtemps. Donc cette présentation va reprendre les axes forts de ma thèse en se penchant dans un premier temps sur l'histoire du médium télévisuel et sur l'accès progressif de ces identités au régime du visible. Nous nous pencherons ensuite sur l'effritement progressif de la métaphore du placard et du coming out comme matrice narrative dominante utilisée pour mettre en scène des personnages gays et lesbiens. Nous concentrerons ensuite l'analyse sur la notion de post-placard, créée donc par Ron Becker, pour analyser un changement du paysage télévisuel au tournant des années 90-2000. Il convient à ce stade de préciser que nous ne souscrivons pas, ni Becker, ni Audrey Hensler, ni moi-même, à une définition du préfixe post ici, tel qu'il est entendu dans les termes post-racial, post-féministe ou post-gay, qui accrédite chacun la thèse d'un monde où les revendications des mouvements militants antiracistes, féministes et LGBT Q+, auraient atteint leurs objectifs en matière de justice sociale, remettant par conséquent en cause leur utilité politique dans le présent. Nous nous emploierons donc à interroger le sens de ce préfixe « post ». Que veut-il dire ? Le déclin du placard et de son épistémologie, telle que définie par Yves Kossowski-Sedgwick, est-il un phénomène achevé et total, ou bien progressif et scalaire ? Autrement dit, les mutations indéniables des modalités de représentation des identités LGBTQ+, qui ont eu lieu ces dernières décennies, ont-elles achevé d'enterrer le placard, ou celui-ci s'est-il, dans une certaine mesure, redéployé, reconfiguré ? Le suspense est insoutenable. Alors, eu égard aux contraintes de temps de cette présentation, parce que je voudrais axer avant tout cette communication sur les représentations post-placard, je vais dresser un bilan, somme toute schématique, de la généalogie du placard télévisuel états-unien. Pour faire simple, les différents dispositifs de régulation des contenus diffusés sur les postes de télévision du pays, comme le Television Code of Practices, ont de manière plus ou moins semblable au Code Hays pour le cinéma, rendu impossible ou presque l'émergence de personnages gays au début de l'histoire du médium. Contrairement au cinéma, comme l'a illustré Vito Russo dans son ouvrage The Celluloid Closet, on ne trouve pas de personnages gays, pas même en sous-texte, dans les fictions sérielles télévisées avant les années 60, à une toute petite exception près, mais elle ne mérite pas vraiment mention ici. Cette différence s'explique certainement par le caractère domestique du médium, qui a indubitablement conduit à une régulation accrue des contenus diffusés. Avant 1967, les gays et les lesbiennes n'apparaissent que dans des documentaires ou bien comme invités dans des talk shows, dont la thématique est précisément l'homosexualité, qui est quasi invariablement présentée comme un fléau social et mise à cet égard sur le même plan que l'alcoolisme, par exemple. C'est donc en 1967 que le premier personnage gay apparaît dans l'épisode pilote d'une série policière, NYPD, épisode intitulé « Shakedown ». Cette première occurrence, comme le titre de l'épisode l'indique, est en lien direct avec la réalité du placard. L'épisode porte en effet sur une affaire de chantage liée à l'homosexualité d'individus menacés de voir leur homosexualité révélée. L'un des personnages en vient à se suicider, ce qui justifie l'ouverture de l'enquête. Voilà. Selon Robert Capsuto, les premiers récits de coming out sont apparus dans les années 70. Et à cette époque, deux scripts gays courants se faisaient concurrence. Celui du coming out, du placard et du coming out, et celui du monstre queer. En fin de compte, c'est la figure du monstre queer que l'on retrouve davantage au cinéma qu'à la télévision, qui montrait les minorités sexuelles comme des assassins ou des pédophiles, qui s'est imposé comme modèle de représentation dominant, dans un premier temps. Ce n'est qu'à partir du milieu des années 80 que le coming out a supplanté le stéréotype du monstre queer, lequel faisait l'objet de critiques de plus en plus virulentes de la part des associations de veille médiatique gays comme The Gay and Lesbian Media Task Force. Ces récits de sortie du placard, de la première heure, obéissaient toujours à une logique narrative similaire. Voici comment il serait possible de la résumer. So those very first films and TV specials with explicitly gay themes invariably centered on a coming out story. These stories in film, TV, literature followed a typical trajectory, taking our incipient gay character on the well-worn path of confusion, internal torment, self-loathing and resistance, followed by self-acceptance and emergence to oneself and others. Ces récits aboutissaient le plus souvent, à l'époque, à la disparition des personnages en question, comme le montre cette autre citation. It is worth mentioning here how often the revelation of a character's homosexuality quickly leads to narrative redundancy after said disclosure. Most of the gay and lesbian characters in television soaps have little to do after they come out, and more often than not, they eventually get written out. Par ailleurs, la fonction principale remplie par le coming out n'était pas de venir parachever un long travail introspectif menée par le personnage qui sort du placard et affirme ou assume enfin son identité au grand jour, mais avant tout de montrer le cheminement intellectuel et affectif des personnages hétérosexuels. C'est pénible. Ainsi, les récits de coming out servaient donc une fin avant tout didactique à cette époque-là. Ainsi, dans ces premiers récits de coming out, les séries télévisées se concentraient sur la trajectoire de conversion des personnages hétérosexuels, qui les menaient du choc initial, voire du rejet, à un degré relatif d'acceptation, qui pouvait servir d'exemple aux spectateurs hétérosexuels, dont le processus identificatoire se fixait assez logiquement, et surtout dans les séries mainstream de l'époque, sur les personnages principaux de la série qu'ils affectionnaient et qui partageaient leur orientation sexuelle. Je vais vous montrer un exemple assez parlant de ce que je viens d'évoquer, donc tiré d'une série vraiment tout public, grande diffusion, All in the Family, vraiment série à succès avec le personnage de Archie Bunkers, qui est un peu the average Joe, plus ou moins, enfin, on va dire un peu tendancieux à certains égards, mais qui est quand même censé représenter une certaine normalité, on va dire. Alors, est-ce que ça va marcher?
You must know that this kid is kind of a lucky guy, right?
Is that what Mike thinks of Roger?
Oh, forget about what Mike thinks. I can't even tell you what he thinks. Hey, put them glasses over here. I want to go with you once more. Go ahead.
Yeah, that's all right.
Come on, let me get it one more time. Come on, get it up there. Hey. All right, go.
What does Mike think, Arch?
Oh, Mike, jeez. Well, for one thing, he thinks that friend of his, Roger, is straight. And for another thing, well, Steve, you're going to want to bust them wide open when I tell you this. I don't know where he gets these brainstorms. But he thinks that you're the... I can't even say it to you, Steve.
He's right, Arch.
Huh?
He's right.
Well, what do you mean he's right about his friend Roger there?
About everything.
Oh, come on. I mean, you want to joke about it, all right, but come on, get off it, huh, guy?
Arch? How long you known me? 10, 12 years?
Yeah.
In all that time, did I ever mention a woman?
Well, what difference does that make? You're a bachelor.
So?
I know, but bachelors, they're always acting kind of private.
Exactly.
Oh, come on, Steve. I mean, I ain't the brightest guy in the world. You want to put me on, but don't sit there and tell me that you... I mean, look at you, look at... Come on, will you, big clown? You get out of here.
Have it your own way, Arch. The truth's in the eye of the beholder anyway. I'll see you later, pal.
Donc, après avoir rempli la fonction narrative qui leur avait été confiée, les personnages gays se voyaient ainsi relégués dans les limbes du récit. Ce fut le cas de Phil, l'ami d'Archie, que l'on a vu dans l'extrait. La fonction de ces coming out n'était donc pas d'amorcer la représentation en trois dimensions de la vie d'un personnage désormais ouvertement gay, mais plutôt de faire profiter la dynamique narrative de la charge paroxystique et sensationnaliste du coming out et de donner à voir la réaction des personnages hétérosexuels qui en étaient les destinataires. Dans la plupart des séries de l'époque, l'absence de signifiants habituellement associés à l'homosexualité contribuait à accentuer l'effet de surprise. Donc, comme c'est le cas dans l'exemple, hein, ici, Phil à tous les attributs, les signifiants de la masculinité hégémonique conventionnelle de l'époque. À la fin, voilà, if that's the punch of a fruit, en dit long sur la perception de l'expression de genre de Phil. et donc de la crédibilité présumée de son coming out aussi. Donc voilà, ça contribuait à accentuer l'effet de surprise et l'effet comique de la scène, et ajoutait aussi à la tension narrative relâchée au moment du coming out. Donc les années 90, tournant post-placard. Donc, le trope du coming out a longtemps suivi le script que je viens de décrire, et à peu près jusqu'au milieu des années 90. On ne peut pas ne pas citer l'événement qu'a constitué le coming out effectué dans la série Ellen en 97, qui a vraiment marqué un tournant. Le personnage en question donc, était le personnage principal, fait majeur, et sans précédent, de la série, et était incarné par l'actrice Ellen DeGeneres, que peut-être certaines d'entre vous connaissent, lesbienne elle aussi, et qui avait fait son coming out dans Time Magazine environ 2 semaines avant que le personnage éponyme ne fasse le sien dans la série. Donc c'était la première fois que le personnage principal d'une série, donc qu'il aurait été a priori plus malaisé d'évincer de la diégèse, faisait son coming out. L'audace de la série lui aura coûté une bonne partie de son audimat et cette dernière n'a pas été renouvelée après sa 5e saison qui avait vu chuter le nombre de ses spectateurs. Donc si à l'origine les personnages gays qui sortaient du placard tenaient des rôles secondaires et se voyaient souvent écartés de l'univers diégétique de la série une fois leur coming out accompli, le script en question a connu quelques modifications au fil du temps à cette époque-là. En effet, désormais, même si le coming out constitue toujours un événement, il se concentre de moins en moins sur les réactions des personnages hétérosexuels et est davantage présenté comme un rite de passage qui ne marque plus qu'une étape dans le développement plus général du personnage. Ce fut notamment le cas du personnage d'Erlen. Le coming out ne sert donc plus simplement à éduquer les spectateurs hétérosexuels, mais à donner de la substance aux personnages gays qui sortent du placard, à les arrondir, les étoffer, sans pour autant que ces derniers soient définis uniquement par cet acte performatif. Le traitement du coming out est désormais intégré à la trame de l'histoire. Il ne s'agit plus d'un simple ressort narratif ou bien d'un épisode à part, mais vraiment voilà, intégré à la trame principale de l'histoire. On peut prendre l'exemple du personnage de David Fisher dans la série Six Feet Under, dont le processus de coming out, par exemple, embrasse l'intégralité de la première saison. Vous voyez Ellen ici, donc ça c'est la couverture de Time Magazine. Ça c'est un extrait tiré de la scène de coming out de la série, et ça c'est une image de Six Feet Under avec David à gauche. Le trope du coming out a donc connu des évolutions depuis le début des années 80, époque donc à laquelle celui-ci s'est véritablement imposé comme schéma narratif dominant. Toutefois, il n'a pas conservé ce statut particulier au-delà de la fin des années 90, qui correspond à la période où Becker situe le début de l'ère post-placard. Il faut souligner toutefois qu'à l'époque, cela s'applique surtout aux hommes gays blancs, qui étaient bien plus représentés que les lesbiennes ou que les hommes gays racisés, sans compter les personnages trans, qui étaient, quant à eux et elles, encore largement invisibilisés. Donc selon Becker, la présence accrue de personnages gays à travers l'ensemble du paysage télévisuel, dans des programmes diffusés en prime time, sur les grandes chaînes hertziennes, dans des séries du câble et désormais sur les plateformes de streaming, ne fait plus l'objet des mêmes levées de boucliers. Il y en eut tout de même un certain nombre, mais ne suscite plus les mêmes résistances et s'est même largement banalisé. La croissance quasi exponentielle du nombre de personnages LGBTQ+, ces 3 dernières décennies, en témoigne. Cette augmentation numérique soudaine, à partir de la fin des années 90, s'accompagne d'une diversification du type de récits dans lesquels les personnages gays et lesbiens sont mis en scène. Un nombre croissant d'entre eux et elles apparaissent dans la diégèse en étant directement hors du placard, par exemple. Bien que faisant ce constat, les spécialistes du sujet ne confèrent pas, comme je l'ai évoqué, au poste de post-placard le sens qui lui est souvent attribué dans les termes post-féministe, post-gay ou post-racial, et qui tente à accréditer la thèse selon laquelle les progrès des mouvements antiracistes, féministes, LGBT n'ont plus véritablement de raison d'être. Le paradigme de représentation post-placard s'accompagne, entre autres, d'une diminution de la représentation de l'homophobie, de sa représentation, qui ne saurait néanmoins se laisser entendre comme le signal que les personnes LGBTQ+, la subissent moins ou ne la subissent plus dans les faits. Nous n'affirmons pas non plus que les représentations du placard ont complètement disparu. En effet, il demeure des personnages dans le placard, mais ces derniers ne constituent plus qu'une minorité. Et l'on observe dans leur modélisation des modifications du trope du placard et du coming out, comme dans la série Six Feet Under que nous avons déjà mentionné. Donc, dans le contexte foisonnant de la prolifération des personnages gays amorcée dans la deuxième moitié des années 90, et de façon concomitante au déclin relatif, certes, mais notable tout de même, de la prédominance du placard, sont apparus de nouveaux schémas de représentation des personnages gays et une plus grande diversité des identités représentées. Pendant de longues années, les personnages gays qui avaient accès à l'espace des représentations télévisuelles étaient, comme je l'ai évoqué, en grande majorité des hommes blancs, cisgenres, de milieux socio-économiques relativement aisés. Prenons l'exemple de deux des séries gays qui ont connu le plus grand succès commercial à la fin des années 90 et au début des années 2000, à savoir Will and Grace et Queer as Folk. Sur un total de 7 personnages principaux, tous correspondent à la combinaison identitaire que je viens de mentionner. La diversification progressive des représentations sur le plan narratif, rendue possible par le déclin du placard, s'est accompagnée d'une diversification aussi des identités représentées. D'un point de vue racial, en matière d'âge, de diversité des corps et dans une moindre mesure de classe sociale. Donc, pour les personnages racisés, on note une exception, une série des années 90, fin des années 80, début des années 90, Rock, qui met en scène principalement des personnages africains-américains et qui a un épisode entier sur un épisode de à la fois coming out et mariage gay. C'est un peu un ovni dans l'écosystème de l'époque. Voilà, il y a aussi une série qui s'appelle Noah's Ark, qui était vraiment pour le coup une série un peu sur le même modèle que Queer as Folk, une série chorale, donc un ensemble show qui met en scène exclusivement ou quasi exclusivement des personnages racisés. On trouve le personnage de Omar dans The Wire, un personnage dans Sin City, etc. Bon voilà, on peut en faire la liste, mais voilà, retenez diversification à ce moment-là des identités représentées. Donc par ailleurs, outre la diversification des identités, dans cet environnement renouvelé, de nouveaux types de récits, ou parfois stéréotypes, c'est selon, ont fait floresse. Notamment celui du GBF, ou du Gay Best Friend, personnage inévitablement situé en position d'adjuvant dans le schéma actantiel de la série. Et si ce type de récit a souvent caractérisé ces personnages gays comme l'accessoire trendy d'un personnage hétérosexuel, le trope s'est progressivement complexifié pour traiter les relations d'amitié entre ces hommes gays et, dans l'immense majorité des cas, ces femmes hétérosexuelles, de façon plus étoffée et subtile. Je vais vous lire une citation. Whereas lesbians have been largely ignored in the cultural landscape, for decades, gay men have served as wise, sassy sages, snapping in a Z formation and providing a sympathetic shoulder for women to cry on. But, as Dan Savage says, it gets better. Over time, gay men have become fuller, more well-rounded characters, and consequently, their friendships with women are more three-dimensional. They're equals more than they are appendages. Voilà, donc, pour citer des exemples, on trouve Four Weddings and a Funeral, qui est un bel exemple de cela, Clueless, My Best Friend's Wedding, The Object of My Affection, My So-Called Life, Will and Grace, l'exemple par excellence, je pense, Sex and the City, Glee et d'autres. Par ailleurs, cet accroissement de la visibilité gay et lesbienne s'est accompagné du souci didactique de donner à voir au public hétérosexuel des figures respectables. En effet, les politiques de respectabilité ou Respectability Politics, en anglais, ont longtemps été un des axes majeurs des mouvements militants LGBTQ+, assimilationnistes. C'est pour cela que nombre de ces personnages, c'était par exemple souvent le cas des GBF, se voyaient presque toujours désexualisés. Nous pouvons à ce titre citer des exemples comme Will & Grace ou Modern Family, que vous connaissez peut-être davantage. Bien sûr, le contexte de diffusion de ces séries a pu infléchir les modalités de représentation, en particulier en ce qui concerne la représentation de la sexualité. Par exemple, une série du câble comme Queer as Folk, qui a été diffusée de 2000 à 2005, s'était montrée à l'époque beaucoup plus audacieuse en matière de représentation de la sexualité gay que les séries diffusées sur les chaînes hertziennes plus tard, comme Modern Family. Voilà, le contexte de diffusion aussi influence la façon de représenter notamment la sexualité. Pour vous donner un exemple, l'épisode pilote de Queer as Folk, donc diffusé pour la première fois en 2000, contenait une scène de rimming. If you don't know what that is, you're too young to know. Et ce n'est que 14 ans plus tard qu'une scène similaire, beaucoup plus suggestive du reste, ne sera admise sur les ondes d'un des grands networks en prime time dans la série How to Get Away with Murder. De plus, sous l'effet de ces mêmes politiques, certains tropes que l'on pourrait qualifier d'éculés se sont également modifiés. C'est le cas par exemple de Barrier Gaze, qui condamnait souvent les personnages gays à connaître un sort funeste avant la fin du récit. Dans un mouvement contraire, compréhensible mais somme toute assez mécanique, il est temporairement devenu presque impossible pour ces personnages, pour les personnages gays, de rencontrer la mort, comme le chantait Grace Jones. Et cette tendance était telle que le site TV Tropes, que vous connaissez peut-être, a créé une entrée pour ce qu'il a désigné comme le trope Preserve Your Gaze, qui est le contre-pied de Bury Your Gaze. Voilà. On pouvait plus, les personnages gays ne pouvaient plus mourir, ne mouraient plus jamais. Voilà. C'est probablement dans ce même souci de respectabilité que les personnages antagonistes gays, ou les méchants, pour le dire plus simplement, ont été bannis temporairement des écrans. Cela s'explique probablement par une volonté de rompre nettement avec l'histoire de la figure du monstre queer, ce stéréotype, qui a longtemps eu cours, comme je l'ai dit. Par bonheur, la prolifération des représentations LGBTQ+, de ces 30 dernières années, a permis de voir se desserrer l'étau de la respectabilité et émerger de nouveau des personnages imparfaits, déséquilibrés, désaxés, voire diaboliques. On en trouve dans des séries comme Scandal, Dexter, American Horror Story, par exemple. GLAAD, The Gay and Lesbian Association Against Defamation, l'association de veille médiatique LGBTQ+, créée dans les années 80, et qui émet de nombreuses appréciations et prescriptions quant à l'état des représentations, notamment télévisuelles, a déclaré que l'augmentation du nombre total de personnages LGBTQ+, à la télévision et dans la culture populaire au sens large, permettait une perception différente de ces personnages méchants. Donc, GLAAD, which tracks portrayals of gays in popular culture, says that as the number of gay, lesbian, bisexual, and transgender characters increases in TV and film, it makes sense that there would be more villains. The question is whether they're villainous because they're gay or villains who just happen to also be gay. L'acquisition de nouveaux droits, comme le mariage ou l'adoption, ont également permis de diversifier les types de récits dans lesquels les personnages gays et lesbiens se sont trouvés représentés. Initialement, toujours mû par cette quête de respectabilité, l'on ne voyait que des couples monogames, fidèles, qui respirent le bonheur. Et qui sont des parents exemplaires, bien entendu. Là encore, le temps a permis de desserrer l'étau de la respectabilité, et on a pu voir, par exemple, dès 2011, dans l'épisode au titre évocateur « An Ideal Husband » de la série « Brothers and Sisters », un cas d'adultère dans un couple gay, chose rarissime à l'époque. Depuis lors, les exemples sont devenus beaucoup plus fréquents. Dans Modern Family, même si Mitch et Cameron, les deux parents gays de la série, sont caractérisés comme de bons parents, ils font par moments état de la pression qu'ils ressentent à l'idée d'être imparfaits et du sentiment de responsabilité qu'ils ont de se sentir les représentants à partir desquels tous les hétérosexuels de leur entourage vont façonner leur avis sur la viabilité ou non de la parentalité gay. Je vous montre brièvement ce passage. Ah oui, il faut.
Emergency assistance, this is Trina.
We lost our baby in the car and people are judging us.
I swear to God, I'm gonna break it!
Do not break the window, you'll get glass on her.
Sir, please tell your wife to relax. Everything is going to be okay.
That's a man.
Really?
Don't worry, Lily! Lily, Daddy's coming for you!
Sir, we just sent the signal. The door should be unlocked now.
Check the door. Check the door.
It's not unlocked!
Oh, okay. That is amazing. How did they do that?
I don't know, it's just, we got it, thank you.
Did that come from space?
Donc, alors.
I'm breaking the window!
That's enough. Donc, la place prépondérante, longtemps occupée par le paradigme du placard et de son corollaire, le coming out, a plutôt concouru à promouvoir une conception monolithique de l'identité gay. Le placard et sa sortie sont des dispositifs identitaires en tant qu'ils reposent tous deux sur la dissimulation ou l'affirmation performative d'une identité supposée fixe, et n'admettent en théorie aucune fluctuation, puisque l'identité enfin révélée est conçue comme le reflet d'une vérité intérieure absolue, et longtemps cachée. Les séries post-placard plus récentes, quant à elles, et leur intégration durable des contenus gays, que les séries des années 90 s'aventuraient pour la première fois à traiter à une plus petite échelle, obéissent à une logique identitaire parfois moins rigoureuse que leurs équivalents de la fin des années 90 et du début des années 2000, et déstabilisent l'idée d'une identité gay monolithique. Les séries de la fin des années 90 et du début des années 2000 obéissaient à un régime d'assignation et de délimitation identitaire entre gays et hétérosexuels assez rigide. Notons d'ailleurs ici que la bisexualité était encore très largement invisible dans les séries de l'époque, ou se voyait disqualifié. Mais peu à peu, un certain flottement et une certaine porosité est apparu. L'origine de ce flottement est multifactorielle, et nous allons tâcher de dégager les grandes tendances qui l'ont fait apparaître. Une des manifestations de cette déstabilisation passe par la décorrélation de l'homosexualité en tant que simple comportement sexuel et la « gayness », ou le fait de se penser, se vivre, de se revendiquer comme gay sur le plan identitaire. D'un point de vue terminologique, on pourrait utiliser l'acronyme MSM par opposition à l'épithète identitaire gay. MSM veut dire « men who have sex with men » et a une origine épidémiologique héritée de l'époque de l'épidémie du sida, période à laquelle beaucoup de MSM étaient dans le placard et ne vivaient ni ne se vivaient comme gay. On pourrait distinguer MSM, ou homosexuel au sens strict du terme, de gay en parlant pour le premier d'orientation strictement sexuelle et pour le dernier davantage d'orientation culturelle et identitaire, et aussi sexuelle. Dans le contexte de l'effritement du placard, cette distinction se reconfigure en partie. Par exemple, il est intéressant de noter que des personnages masculins identifiés comme hétérosexuels qui ont eu des expériences homosexuelles, même une seule lors d'une soirée arrosée à une époque lointaine, voient la crédibilité de leur identité ébranlée lors de la découverte de ces écarts passés. Pardon. C'est le cas par exemple de Jared dans la série Insecure, un personnage hétérosexuel qui échange des anecdotes biographiques avec Molly, avec laquelle il sort depuis quelque temps. Molly lui raconte avoir eu une expérience homosexuelle à la fac, et Jared lui répond que lui aussi. Cette annonce éveille chez Molly un soupçon qu'elle ne parviendra pas à dissiper. Pour elle, leurs deux cas sont très différents, et le récit de cette anecdote discrédite tout à fait la légitimité de Jared à se penser et se dire hétérosexuel. On notera le deux poids deux mesures de la situation, qui illustre bien l'argument de Jane Ward dans son ouvrage « Not gay, sex between straight men », selon lequel les hommes jouissent d'une liberté bien inférieure aux femmes en ce qui concerne ce genre d'exploration de leur sexualité. Molly rematérialise un placard qui n'a jamais existé pour Jared. Une autre occurrence éclairante de la manière dont l'homosexualité et l'identité gay peuvent être décorrélées se trouve dans la série Empire. Le personnage de Jamal, dont l'arc narratif de Coming Out occupe le plus clair de la première saison de la série, tombe amoureux de Skye, une chanteuse incarnée par nul autre qu'Alicia Keys. Leur relation n'est pas platonique. Toutefois, voilà ce que déclare Jamal lorsque son père, débordant d'enthousiasme et de soulagement, lui dit « Are you hitting that ?» en parlant de Sky. « Look, well, I'm still gay, all right? So don't get weird. » Et son père lui répond « She fixed you. » On trouve également, comme l'a identifié Becker, un nombre croissant de personnages qu'il qualifie de « queer straights ». Je vais vous lire une courte citation qui est là aussi, mais en petit. Television's queer straight guys certainly suggest that the relationship between hegemonic masculinity and homosexuality is shifting. It would be surprising if it weren't, since LGBTQ political activism and cultural visibility has destabilized elements important to certain heteronormative configurations of gender, desire and identity. Les exemples de tels personnages sont nombreux et assez variés. Par exemple, rétrospectivement, il est possible d'estimer que Chandler, dans Friends, a pu correspondre à ce type de personnage. Il n'incarnait pas une masculinité considérée comme hégémonique par ses pairs et était soupçonné d'être dans le placard par les autres personnages. La perception du personnage serait sûrement différente aujourd'hui. Nous pouvons prendre l'exemple aussi de Gary Walsh dans la série Veep. Tout d'abord, Gary a une expression de genre. Donc Gary, bon, je pense que la plupart d'entre vous connaissez Chandler, c'est Gary. Donc Gary a une expression de genre qui pourrait être qualifiée de féminine ou d'efféminée, selon les canons existants en la matière. Il a une relation avec le personnage principal féminin très ambiguë. On ne sait pas s'il est amoureux de Selena ou s'il lui voue seulement une admiration et une dévotion platonique qui semblerait démesuré et remettrait en question l'hétérosexualité du personnage. Il ne semble pas avoir d'attirance sexuelle pour elle, et sa relation avec elle peut à certains égards rappeler celle du GBF à son astre hétérosexuel. Il est intéressant de noter que ce même acteur avait incarné un personnage un peu similaire dans la série comique Arrested Development quelques années auparavant. On peut également citer le personnage de Kenneth, ici, dans 30 Rock, qui se caractérise lui aussi par des excès de zèle professionnels, des manières que l'on pourrait qualifier d'efféminées, et une vie sentimentale qui fait l'objet d'interrogations par les autres personnages. Dans un paysage télévisuel post-placard, ces déstabilisations s'inscrivent dans un mouvement plus général de fluidité des identités, fluidité croissante des identités. C'est la raison pour laquelle on recense un nombre grandissant de personnages qui ne revendiquent aucune orientation sexuelle précise et ont des relations affectives et ou sexuelles avec d'autres individus aux identités variées. L'exemple du personnage de Ambrose dans Chilling Adventures of Sabrina est éclairant à cet égard, mais il en existe plein d'autres de nos jours. Ambrose affiche une sexualité indéterminée dans la série. Il couche avec des femmes et des hommes de façon indifférenciée, sans jamais revendiquer d'étiquette identitaire. La fluidité de la sexualité d'Ambrose a mené certains spectateurs, spectatrices, à identifier le personnage en tant que bisexuel, ce qui a provoqué la colère d'autres fans qui estimaient quant à eux qu'il était pansexuel. Au bout du compte, dans une interview, l'acteur aura dissipé tout malentendu en catégorisant lui-même son personnage comme pansexuel. C'est intéressant de voir comment des représentations qui cherchent à montrer l'indétermination, comment au moment de la réception, j'en parlerai aussi tout à l'heure, le niveau de la réception recrée en quelque sorte un placard et des étiquettes. Voilà. Donc Ambrose ne se distingue pas du reste des sorciers et des sorcières qui peuplent l'univers fictionnel de la série et dont la sexualité globalement se caractérise justement par une grande fluidité. Mais il est intéressant de noter qu'hormis quelques exceptions qui relèvent plus du queerbaiting qu'autre chose, Ambrose est le seul à nouer des relations amoureuses avec des individus du même genre que lui. Donc, en gros, dans Chilling Adventures of Sabrina, tout le monde est censé être fluide, tout ça, etc. Mais il n'y a que Ambrose qui est dans des relations vraiment amoureuses, romantiques, avec non-hétérosexuels. Voilà. Donc, c'est toujours intéressant de voir la différence et le décalage qu'il peut y avoir entre la fluidité affirmée ou de façade et la fluidité effective. Je vous demande de jeter un œil brièvement, on ne voit pas très bien malheureusement, Mais ça, c'est un moment donc, dans la série. C'est un épisode un peu carnavalesque, The Feast of Feasts, où justement les personnages sont censés un peu tout se permettre. Voilà, y a, c'est un peu des bacchanales, si on peut dire. Mais on voit que même dans donc, ce qui est censé être une orgie, il n'y a pas de contact, ou quasiment, entre, enfin, pas de contact non hétérosexuel. C'est-à-dire, c'est un garçon, une fille, un garçon, une fille, un garçon, une fille, un garçon, une fille. Et toutes les interactions charnelles dans la scène ne se font qu'entre personnages hétérosexuels. Donc voilà, c'est intéressant. Donc voilà, certaines séries comme Chilling Adventures of Sabrina illustrent bien une tendance à revendiquer une fluidité sexuelle d'atmosphère, mais qui s'avère superficielle lorsqu'on y regarde de plus près. Il arrive aussi parfois que des personnages que l'on ne voit que dans des interactions sexuelles homosexuelles ne revendiquent pas une identité gay ou quelque autre identité d'ailleurs. Un nombre croissant de personnages sont caractérisés sans balisage identitaire précis. Ou bien il arrive également que l'indétermination de la sexualité ou de l'identité sexuelle de ces personnages... excusez-moi, je me suis mélangé les pinceaux dans ma phrase. Donc il arrive qu'un nombre croissant de personnages soit caractérisé sans balisage identitaire précis. Et on peut se demander si l'indétermination donc, de la sexualité ou de l'identité sexuelle de ces personnages peut, doit encore s'interpréter nécessairement comme le signe d'un placard. C'est un objet de débat. Et par exemple, on peut évoquer le cas de Gustavo Fring, le méchant, enfin un des méchants dans Breaking Bad et Better Call Saul, dont l'énigme de l'orientation sexuelle ne sera jamais tout à fait résolue de façon définitive dans aucune des deux séries, un peu plus dans Better Call Saul, mais tout de même pas tout à fait. Et la réception de cette indétermination fait l'objet chez les spectateurs et spectatrices d'avis contraires. Certaines auraient voulu que la question soit tirée au clair et voient cette indétermination comme un placard. D'autres, au contraire, se réjouissent de cette indétermination qui, elles, considèrent comme contribuant à donner au personnage profondeur et complexité. Voilà. Donc le placard et son corollaire, le coming out, sont tous deux des dispositifs fondés sur la dissimulation ou l'affirmation d'une identité gay fixe et stable. Par conséquent, les séries de l'ère du placard tendaient à agréger et fixer artificiellement une grande variété d'identités, et les bouleversements engendrés par l'effritement du paradigme du placard auront contribué à ébrécher cette illusion d'unicité en déstabilisant l'épithète identitaire gay, et par là même faire la place à une plus grande complexité et une plus grande fluidité des identités. Il serait néanmoins illusoire d'imaginer que ce déclin relatif du placard est un processus linéaire qui ne s'accompagne pas d'un redéploiement du régime disciplinaire du placard par des reconfigurations de celui-ci. Par exemple, il arrive, comme ce fut le cas du personnage de Chad dans Brothers and Sisters, que la caractérisation initiale du personnage le pose comme queer straight, ou bien comme plus ou moins fluide, et que la suite du récit matérialise un placard en niant la crédibilité de cette fluidité. Au fil des épisodes, dans un mouvement qui n'est pas sans rappeler la bi erasure ou effacement de la bisexualité, ce personnage se rend compte qu'il est gay et qu'il lui faut par conséquent se soumettre à l'injonction de vivre ouvertement sa sexualité en faisant son coming out. Voilà ce que dit Kevin, qui finira par devenir l'amant puis le compagnon de Chad. This guy is messing with my head. In the gay column, I have flirting, giving me shoes, Lola the pug. And in the straight column, I have girlfriend, Lakers, and the use of the words dude and bro. Maybe he's bi. No one's bi. Have you ever met a 70-year-old bisexual? At some point, you make a choice. Thus, the expression bi now, gay later. Maybe he hasn't decided yet. Dans certaines séries, la fluidité des personnages et l'indétermination identitaire fait précisément l'objet d'investigations approfondies. Par exemple, un épisode entier de Will and Grace porte sur l'énigme de la sexualité du nouveau voisin des deux protagonistes que ces derniers essaient tous deux de séduire. Les séries post-placard ont eu tendance à représenter aussi beaucoup de couples au statut in-out discordant. Cette discordance exerce une tension sur la relation entre un personnage qui se refuse à cacher sa sexualité et vivre dans la honte et son partenaire dans le placard. Ces personnages dans le placard le sont généralement pour des raisons spécifiques, souvent professionnelles. Chad de Brothers and Sisters est acteur. Matt dans Will & Grace est reporter sportif. Duke dans Faking It est boxeur. Et Drew dans Queer as Folk est sportif de haut niveau aussi. Ces arcs narratifs se résolvent invariablement de la même manière et débouchent soit sur une rupture et sur l'éviction du personnage placardé, ou bien sur un coming out. Dans tous les cas, le placard finit par disparaître. On remarque dans les exemples que je viens de citer que les personnages encore placardés le sont pour des raisons particulières. Dans les cas précités, il s'agit de raisons professionnelles. Les personnages officient pour la plupart dans le domaine du sport, pas vraiment connus pour être particulièrement gay-friendly, même si c'est peut-être un cliché. Mais ce n'est pas le seul. Mikey dans The Unbreakable Kimmy Schmidt travaille dans le BTP et se trouve lui aussi dans le placard. Les placards traditionnels ou conventionnels qui demeurent dans les séries post-placard sont souvent justifiés par des circonstances particulières. Une famille particulièrement homophobe, un environnement professionnel hostile, un moment de quête d'identité accrue comme l'adolescence, un contexte historique ou géographique particulier. On trouve par exemple beaucoup de séries rétro, vous connaissez certaines certainement, comme Stranger Things, The Carrie Diaries, Masters of Sex, Fresh Off the Boat, montrent des personnages dans le placard. Le placard est ici utilisé comme un élément qui contribue à rendre crédible l'ancrage temporel, excusez-moi, dans une période historique révolue. Cette tendance assez marquée par ailleurs, qu'Audrey Hensler a désignée par le terme « rétro-placard », a le défaut d'accréditer la thèse d'un monde post-gay dans lequel l'homophobie et le placard appartiendraient au passé. Le placard se trouve également représenté dans des flashbacks qui montrent le passé de personnages gays d'un certain âge. C'est le cas dans des séries comme Scandal ou bien Grace and Frankie. Les personnages adolescents, même si c'est de moins en moins le cas, ont longtemps continué jusqu'à plus récemment à vivre puis à sortir du placard. À la différence des représentations antérieures, un nombre non négligeable de ces coming out n'était en réalité qu'une formalité, un non-événement pour les parents et participait ainsi du schéma post-placard en réalité. Sauf dans les cas où un élément de contexte venait à nouveau justifier l'existence du placard, comme dans The Real O'Neills ou Desperate Housewives, qui donnent à voir deux mères très croyantes qui se refusent dans un premier temps à accepter la sexualité de leur enfant. Je vous montre par exemple ce comme... notons d'ailleurs qu'il n'est pas rare que les personnages racisés, s'ils ne sont pas forcément dans le placard dans la vie, le soient encore auprès de leur famille, décrites souvent comme particulièrement homophobes. Ces représentations dépeignent donc les communautés racisées, africaines-américaines dans la plupart des cas, comme plus homophobes que les familles blanches. À ma connaissance, aucune étude sociologique sérieuse ne le confirme. En outre, bien que cela puisse sembler relever de l'oxymore, on trouve aussi des coming out que l'on pourrait qualifier de post-placard, car ils diffèrent de façon significative de leur version antérieure. Vous aurez sans doute remarqué que la métaphore du placard et du coming out s'est étendue à une kyrielle d'autres identités, hein, comme les vampires, les loups-garous, etc. Nous ne nous appesantirons pas là-dessus maintenant, mais c'est à noter tout de même. Nous concentrerons cette dernière partie de l'analyse sur des secrets relevant de la sexualité d'une manière ou d'une autre. Par exemple, on retrouve parfois la métaphore du placard pour l'affirmation de transidentité, d'une séropositivité, d'asexualité ou même d'hétérosexualité. Certaines séries comme Ugly Betty ou Faking It montrent des personnages hétérosexuels qui dissimulent leur hétérosexualité et se prétendent gays ou lesbiennes dans des milieux qui seraient particulièrement favorables aux gays et aux lesbiennes, selon une conception d'ailleurs très stéréotypée, voire homophobe. On trouve également des coming-out humoristiques, comme celui de Jack McFarland à sa mère dans Will and Grace, et dont l'homosexualité, à en croire tous les autres personnages, crève les yeux. Bon, le personnage est vraiment écrit comme ça. Le coming-out du personnage de Mark, personnage plutôt flamboyant aussi, dans Ugly Betty, à sa mère là encore, peut revêtir une dimension humoristique en soi, mais plus encore dans cet exemple, car le personnage de sa mère est incarné par Patti LuPone, une star de comédie musicale et une icône gay reconnue. Ce balayage n'est bien entendu pas exhaustif, mais j'ai essayé de dégager les modifications et reconfigurations majeures d'un paradigme identitaire dont on ne saurait sonner trop tôt le glas et qui persiste à infléchir certaines conceptions qui continuent d'irriguer le paysage télévisuel. En conclusion, il est indiscutable que les récits de placard et de coming out ont perdu leur statut de paradigme de représentation dominant. La ligne stricte de démarcation entre les identités gays et hétéros s'est estompée avec l'effritement du placard. Et l'éventail des identités sexuelles ou des sexualités non balisées au moyen d'un épithète identitaire s'est accru. On remarque néanmoins que certaines séries des années 2000 et 2010 tentent de prolonger un régime identitaire strict en poussant certains personnages à étiqueter leur sexualité et pour les personnages qui se trouvent encore dans le placard, à en sortir pour revendiquer une identité fixe et stable. C'est moins le cas aujourd'hui. Comme on a pu le voir, il demeure des occurrences de récits de placard, mais elles sont le plus souvent circonscrites à des circonstances particulières ou bien mobilisent le placard avec ironie en le vidant de sa charge dramatique. Le spectre du placard et les traces de son épistémologie perdurent toutefois dans de nombreux cas de personnages dont la sexualité est indéterminée. C'est souvent au niveau de la réception, dans l'interaction entre le texte et les spectateurs-spectatrices et les débats qu'elles entretiennent sur Internet, que le placard refait surface. C'est parfois les relents homophobes aussi de certains commentaires qui le matérialisent. Il convient d'ajouter que l'on recense encore de nos jours des occurrences de placards conventionnels dans les cas précités et également dans le cas des identités trans, par exemple, comme dans Faking It ou dans Tales of the City ou Chilling Adventures of Sabrina. À nouveau, il est important de conclure que l'évolution des schémas de représentation dans la culture populaire, si elle a certainement eu pour effet de normaliser et de dépathologiser la perception de beaucoup de spectateurs et spectatrices quant à l'homosexualité, ne saurait s'interpréter comme le signe d'un monde post-gay, encore moins dans les États-Unis de Trump. D'ailleurs, et je finirai là-dessus, GLAAD, qui effectue un recensement des personnages LGBTQ+, à travers l'ensemble du paysage télévisuel, a noté une baisse du nombre de personnages pour l'année 2024. Espérons qu'il s'agisse d'un épiphénomène et que cette tendance ne se poursuive pas au cours des 4 prochaines années du mandat du président actuel. Merci de m'avoir écouté.
Merci Sébastien pour ces définitions du placard, le tournant, le post-placard avec l'appui des clips, notamment que tu arrives à faire diffuser Archie Bunker dans ce contexte, un petit peu parce que c'est un personnage assez particulier. Je suis sûre que vous avez beaucoup de questions pour Sébastien qui souhaitera commencer.
Ok. Alors du coup, j'ai bien aimé que vous avez parlé de l'indétermination et un peu de l'effacement du placard. Et je me demandais en fait si on pouvait pas parler d'une sorte de renversement du concept de placard, où finalement le placard devient une sorte de... Le placard, ça devient un peu le fait de se catégoriser comme le gay, le DN, etc. Où en fait on constate un peu ce renversement-là et vend... Moi, j'ai le fait de se catégoriser. Est-ce que ce ne serait pas ça, finalement, la nouvelle notion du placard ?
Est-ce que vous pouvez simplement peut-être développer l'idée selon laquelle le fait de se catégoriser, ce serait un placard ?
Bah, justement, c'est ma question. En fait, c'est est-ce qu'on peut parler de ça ou d'une guitare ou...
Vous voulez dire que ce serait un enfermement un peu artificiel, une négation de la fluidité intrinsèque de, voilà, de la sexualité de tout un chacun Je ne sais pas si on peut vraiment utiliser le concept de placard pour dire ça, dans le sens où peut-être qu'on le pourrait s'il s'agissait d'une volonté active de dissimulation, d'une démarche de dissimulation, ce qui ne me semble pas vraiment être le cas. Je pense qu'il y a des personnages et des gens qui se sentent bien dans une conception de leur propre identité fixe et stable, etc.
Je faisais ce parallèle-là juste parce que je trouvais que le placard, ça, c'était aussi une question d'enfermement et d'emprisonnement. En dehors du fait de se cacher, il y a aussi la notion d'être voilà, étouffé et enfermé. Donc c'est pour ça que je faisais le rapprochement.
Bah, peut-être pour certains personnages, il faudrait voir des exemples précis qui... effectivement mobiliserait bah, une identité, enfin une étiquette identitaire fixe comme enfin pour se cacher peut-être, mais j'ai pas d'exemple qui me viennent en tête.
C'est que vous pensez à Sylvia Plath, c'est que vous pensez non du tout, ok, non mais je non, c'est juste que connaissant un petit peu sur quoi vous avez travaillé, c'est pour
Non, pas spécialement.
Ok, j'ai mal compris.
Mais c'est une idée intéressante. Si vous avez des exemples précis, je veux bien qu'on en discute.
Non, mais j'ai pas d'exemple précis en tête. Je sais juste que c'est plutôt actuel, on va dire, cette question de fluidité, de la sexualité et de ne pas s'enfermer dans une catégorie.
Bah, comme vous dites, c'est-à-dire et ça, c'est un phénomène qui est relativement récent et qui est postérieur à l'émergence du post-placard. C'est-à-dire, en gros, pendant les années 2000, début des années 2010, on avait encore beaucoup de récits, de placards, etc., et de coming out, enfin, beaucoup moins qu'avant, mais encore un certain nombre. Mais il y avait assez peu d'ambiguïté ou de fluidité dans l'expression, enfin, dans les identités qui étaient... exprimée, revendiquée par les personnages. L'indétermination, c'est quelque chose, c'est un phénomène de façon généralisée qui a émergé plus récemment. Et donc on trouve de façon... enfin, il coexiste dans le paysage actuel des personnages plutôt fluides, des personnages qui ont une identité plutôt fixe, mais justement... La question de la fluidité, ça devient un ressort narratif, c'est le « aha, on ne s'y attendait pas, tel personnage, rien ne pouvait laisser présager que… » Donc ça devient aussi un ressort narratif, mais c'est intéressant justement que cette question de l'indétermination, donc, qui est de plus en plus représentée, en fait, elle est ambivalente, je trouve, parce que on vit… pas dans un monde qui fait la part belle à la fluidité, notamment en matière d'identité, de genre, de sexualité. Et donc souvent, dans la réception, les stratégies de réception des spectateurs, des spectatrices, on sent que les gens ont envie de mettre une étiquette, ont envie, pas tous, hein, et parfois n'ont pas envie de mettre d'étiquette non plus. Et les raisons pour lesquelles les spectateurs, spectatrices pourraient ne pas avoir envie de mettre d'étiquette sont variées. Certaines personnes, justement, ça se fait dans une démarche de revendication, de fluidité, etc. D'autres fois, ça peut être, parce que certains spectateurs et certaines spectatrices s'accommodent mieux on va dire, d'expression et de manifestation de sexualité et d'identité sexuelle non-hétéro lorsqu'elles sont fluides, indéterminées, parce qu'aussi c'est des représentations qui peuvent être ignorées quelque part. Je vous donne l'exemple de Gus Fring, par exemple, dans Breaking Bad et dans Better Call Saul. Donc dans Breaking Bad, en gros, C'est vraiment extrêmement subtil, c'est quasiment sous-textuel, voilà. Et dans Better Call Saul, c'est plus manifeste, mais on n'a pas la réponse finale. Et donc, il y a des gens qui trouvent que c'est dommage, qui auraient voulu que ce soit plus, plus clair, que les choses soient dites plus clairement. Il y a des personnes qui se réjouissent justement de cette indétermination. Alors, pour des raisons politiques, de la fluidité, c'est bien, l'indétermination, c'est bien. D'autres personnes qui se réjouissent parce que, justement, ça fait du bien dans une série un peu complexe, que ça participe quelque part à des... Enfin, que ça contribue à la qualité d'écriture de la série. Donc, parfois, c'est pour des raisons aussi esthétiques, des questions aussi de hiérarchie un peu culturelle. Et parfois, il y a des gens aussi qui sont contents que les choses soient implicites parce que... parce que c'est moins dérangeant, un personnage qu'on peut ignorer quelque part ou dont on peut ignorer la sexualité, dont la sexualité ou l'identité prend pas trop de place ou est pas trop manifeste, ce genre de choses. Y a un autre exemple qui est assez parlant. Je sais pas si vous avez joué/regardé The Last of Us, mais en gros dans le jeu The Last of Us, le personnage de Bill, enfin la relation entre Bill et Frank, donc deux personnages, elle est vraiment laissée dans l'implicite. Dans le jeu vidéo. En gros, Bill dit « He was my partner mais bon, il a l'air un peu ému quand il découvre... Bon, je ne veux pas spoiler. Bon, voilà. Mais c'est vraiment laissé dans l'implicite. On ne sait pas, c'est une énigme, etc. Et au moment de l'adaptation transmédia, enfin, l'adaptation en série télé par HBO, la série télé a fait le choix d'un coming out, en quelque sorte, en vouant un épisode entier, d'une heure et quart, je crois, vraiment à la relation amoureuse et à l'histoire d'amour entre ces deux personnages. Et, alors, l'épisode a eu un grand succès, etc., enfin, a rencontré un franc succès, mais il y a eu quand même une vague de review bombing, donc de commentaires homophobes, haineux, mécontents, de ce choix scénaristique parce qu'en fait ces spectateurs, spectatrices ou ces joueurs, ces joueuses pouvaient s'accommoder en fait de l'ambiguïté, l'indétermination de la sexualité de Bill et de Frank parce qu'en fait elle peut être ignorée, glossed over, enfin voilà, on peut ne pas la voir si on n'a pas envie quelque part. Alors que dans la série, bon bah voilà, si on veut pas sauter un épisode, on est bien obligé de se le farcir quoi. Donc voilà, c'est très ambivalent et parfois en fait dans ce cas-là, il me semble que au moment de la réception, quelque part rétrospectivement, ça vient matérialiser un placard dans la lecture possible qu'on peut faire de l'indétermination du personnage de Bill. Voilà. Pardon, c'était une réponse un peu longue, mais... Oui.
Vous mentionnez au début, en 97, les coming out de Ellen en tant que personne et son personnage, et il induit involontairement et inconsciemment de sa part des personnes lesbiennes fin des années 90, début des années 2000, à s'inquiéter de Tortoise de Malène. Et je voulais savoir si, au niveau des hommes gays, il y avait un personnage, donc du tout potentiellement un acteur gay, qui avait entraîné ce genre de symbole qu'a eu Hélène, quand même, seulement aux États-Unis, à ma connaissance, mais de vraiment d'identification et de « we are daughters of Anna Zoua ».
Alors... la chose qui me vient en entendant « daughters of Ellen », c'est « friends of Dorothy's ». Friends of Dorothy, qui n'est pas un personnage gay en soi, mais je pense qu'il a servi de support identificatoire à beaucoup d'hommes gays longtemps. Enfin voilà, Judy Garland, c'est un peu l'icône gay par excellence. Donc ça me fait un peu penser à ça. Donc il y a peut-être un héritage revendiqué un peu différent. Je pense que ce qui distingue peut-être, notamment dans les années 90, la représentation des lesbiennes et la représentation des hommes gays, c'est qu'en fait, très largement, les lesbiennes sont restées invisibles plus longtemps. Donc en fait, Ellen a conservé un statut peut-être particulier.
Parce qu'on pouvait s'accrocher qu'à elle, en fait.
davantage, je pense. Mais je réfléchis quand même, est-ce qu'il y a eu vraiment peut-être un coming out bon, y a, à ma connaissance, il n'y a pas eu de...
De symbole comme ça
non.
Qui prend un pouvoir personnel, je...
Il n'y a rien qui me vienne, en tout cas. Est-ce qu'il y a eu un coming out vraiment particulièrement significatif?
Quand est-ce que Ricky...
Ricky Martin?
Yeah.
Oh, c'est plus tard.
C'est plus tard.
Ouais, c'est plus tard. Non, pas à ma connaissance. En tout cas, pas dans les fictions. Peut-être dans la vie. J'avoue que je suis moins calé sur la vie que sur les représentations. Neil Patrick Harris?
Yeah, c'était cool.
Pareil, c'était plus tard qu'Ellen. Parce que c'était après, pendant ou après la diffusion de How I Met Your Mother. Donc, je pense pas. En tout cas, ça n'a pas eu le même retentissement et le même impact. Ouais. Je vous en prie. Oui.
Déjà, merci pour cette présentation très complète et très didactique.
Ah, merci.
J'avais une question sur le contexte de diffusion. Tu nous as parlé un petit peu du point de rupture en fait, entre la télévision network et la télévision barcable. Et je me demandais s'il y avait pareil un train de bascule entre la télévision barcable et les plateformes de streaming, par exemple.
Un point de bascule, c'est-à-dire un moment...
La représentation du personnage gay en général et du placard en particulier.
Un moment de bascule. Je pense que la scène de Rimming dans How to Get Away with Murder sur une chaîne du câble, une chaîne, un des grands networks, une des chaînes de grande diffusion herdienne, a fait date. Et ça a fait justement couler pas mal d'encre à l'époque parce que ça a marqué une rupture avec, on va dire, des représentations qui jusque-là étaient restées relativement chastes. La désexualisation des personnages, c'est resté un peu la norme quand même sur les séries des grands networks assez longtemps. Ça a été le cas dans Will and Grace. Vraiment, où c'en est presque absurde au bout d'un moment. Et dans Modern Family aussi, Cam et Mitch, qui se font simplement des petits pecs comme ça, et seulement ça pendant je ne sais pas combien de saisons. Mais justement, par exemple, cette série a pris en compte les critiques et a essayé de faire un effort pendant sa diffusion pour essayer de montrer davantage d'affection entre, alors pas de sexualité, mais d'affection entre les personnages. Et voilà, je pense que, après, How to Get Away with Murder, c'est aussi un peu particulier parce que c'est une série qui fait partie de l'écosystème des séries de Shonda Rhimes et qui se caractérise, enfin, qui a une identité un peu particulière. Il y a une plus grande permissivité dans ces séries-là, globalement, que dans les autres séries. Donc, cette série n'est pas forcément représentative du reste, mais ça a quand même marqué un tournant, je pense. Et peut-être que, justement, voyant que « Kids didn't turn to stone in Indiana », qu'en gros, voilà, ça n'a pas occasionné des levées de boucliers, enfin, voilà, que les gens n'étaient pas choqués au dernier degré. Peut-être que ça a permis de déplacer un peu, je ne sais pas si on peut dire la fenêtre d'Overton, mais en tout cas, le champ des possibles, d'ouvrir le champ des possibles en matière de représentation de la sexualité.
Mais je me demandais, en fait, plutôt par rapport au streaming et aux plateformes de streaming dans Netflix, est-ce que ça a causé une révolution de la représentation, ou c'était plutôt dans la continuité
C'était plutôt dans la continuité des séries par câble. En fait, je pense que le critère qui est plutôt opérant pour comprendre ça, c'est plutôt la question du ciblage des publics. Et les plateformes de streaming, comme les chaînes du câble, ont plutôt une approche de narrow casting, et vont plutôt avoir tendance à cibler des publics de niche. Donc ça, c'est le cas sur Netflix. C'est le cas sur HBO, par exemple. Et c'est plutôt ce critère-là, donc la stratégie de ciblage des publics, qui va conditionner, je dirais, le type de contenu, le type de représentation.
Au début des années 80, il y avait une série américaine qui s'appelait Dynasty, dont on avait beaucoup parlé avant même qu'elle soit diffusée, précisément parce qu'il y avait un des personnages principaux qui était gay, et il était question de son homosexualité dans la série. Tu ne l'as pas mentionné, c'est peut-être délibéré de ta part.
Non, je ne l'ai pas mentionné. C'était un cas de placard, enfin un arc narratif de placard assez... assez conventionnel et
assez nouveau pour 1980.
Absolument, absolument. J'essaie de réfléchir à pourquoi je ne l'ai pas mentionné. Parce qu'il a moins fait date quand même que le coming out de Ellen. Peut-être parce que le coming out de Ellen a justement ouvert quelque chose, enfin voilà, a été suivi par un changement du paradigme de représentation. Je ne l'ai plus tout à fait en tête, mais il me semble que donc dans Dynasty, donc le personnage, disons que peut-être si ma mémoire est bonne, dans Dynasty, ce qui est peut-être un peu différent, c'est que on n'a pas encore vraiment la trajectoire d'un personnage qui est dans le placard, qui souffre du placard, etc., qui fait son coming out et qui vit bien après. Parce que je crois me souvenir que c'est un personnage qui est extrêmement tourmenté et qui le reste après. Et il me semble qu'il est, il disparaît pas totalement, mais il me semble qu'il est un peu évincé, ou en tout cas il occupe après un rôle assez mineur dans la diégèse. Donc quelque part, ce personnage-là, il est un peu il est vraiment imprégné par le paradigme du placard, pour le coup, parce que il y a vraiment... alors effectivement, l'arc narratif de son placard s'étend sur un certain nombre d'épisodes, mais il y a vraiment cette trajectoire ascensionnelle, paroxystique, d'accumulation au fil des épisodes de charges dramatiques, de libération de cette charge au moment du coming out, il me semble. Et après, je crois qu'il est un peu, peut-être pas tout, il disparaît peut-être pas tout à fait, mais qu'il y a quand même une relégation relative de son personnage dans la suite de la série. Mais faudrait revérifier parce que je me souviens plus exactement.
Quelques années plus tard, le sida est apparu. Dans quelle mesure les années sida ont eu un impact sur la représentation des personnages gays? Est-ce que ça a retardé les choses?
Absolument, oui. Oui, d'ailleurs, on voit dans l'évolution statistique des représentations, il y a un creux dans les années 80. Au début des années 80, ça va encore. Et puis, milieu des années 80, et puis les années Reagan, il y a un creux à ce moment-là, oui.
Comme Philadelphia, par exemple, où l'homosexualité était étroitement associée
au... ouais, bien sûr.
À la maladie.
Ouais.
Merci. Moi, j'avais une question, c'était vraiment une question, et j'ai peur d'être bancale sur ma question. J'entends beaucoup de gens parler du fait qu'il y ait des films qui mettent en avant des personnes queer et que ce soit un effet de mode. Okay. Est-ce que vous considérez... Je parle assez fort. Un effet de mode.
De mode, ok.
Et est-ce que on peut considérer que c'en est un, ou c'est juste que les gens sont choqués par par le fait que on se dédie peut-être et qu'on est un peu plus d'aisance à parler de ce genre de choses à l'écran? Enfin, c'est peut-être un peu bancal, mon truc, mais...
Pas du tout, pas du tout. C'est un argument avancé par les forces de la réaction, souvent. C'est quelque chose que j'ai entendu même dans des conversations anecdotiques avec des gens quand je parlais de ma recherche. Ils me disaient « mais c'est pas possible, il y en a partout maintenant, tout le temps, dans toutes les séries. » Bon, alors effectivement, statistiquement, il y en a beaucoup plus qu'avant. Est-ce un effet de mode? Ou comme vous dites, est-ce que c'est finalement représentatif davantage? Je crois que selon les dernières statistiques, puisque GLAAD... The Gay Lesbian Association Against Defamation publie chaque année un rapport qui s'intitule Where We Are on TV. Et je crois que pour l'année 2024, par exemple, pour les personnages, j'ai plus le chiffre en tête, excusez-moi, mais on était, je crois, à 8,6% de personnages dans les séries prime time, personnages principaux, voilà. Donc par rapport aux statistiques démographiques, bon, c'est pas évident de savoir, hein, mais je pense qu'on n'est pas non plus dans la démesure. Après, pour ces questions de... Enfin, est-ce que c'est un effet de mode ou pas? C'est pas que pour les représentations. Hein. C'est quelque chose qu'on entend aussi dans la bouche de certaines personnes pour la vie. Voilà, c'est-à-dire, les gens sont de plus en plus voilà, fluides, queer, et voient ça comme un effet de mode. Ou... Je saurais pas, j'ai pas la réponse à cette question. Hein, je pense que ça repose, enfin c'est une affirmation hors sol qui repose sur aucune étude sociologique. Enfin voilà, aller demander aux gens dans la façon dont ils vivent leur identité, est-ce que c'est un effet de mode ou pas, voilà, c'est peut-être les plus à même de le dire. Oui.
Ça vous dérange si je pose ma question en anglais ?
Non, je vous en prie.
I wanted to ask if you had any takes basically on how class affects the perception, the representation of gay men, of male homosexuality specifically. I was thinking mostly about the series Shameless and how it's shown a sort of a privilege to be openly.
They're still uncommon, I would say. I think I mentioned that diversification, gradual diversification of the you know, various identities being represented. And I think social class has remained relatively scarce in terms of, to the exception of Shameless. I don't know many instances of working class gay men. So I don't know if that answers your question, but there has been a tendency to associate the representation of gay men, and especially white gay men, with consumerism and ergo with money. So I remember there was like a reality TV show. I usually don't work on reality TV, but there was a TV show called The A-List, and it was just a bunch of rich white gays in New York and in LA. There were, you know, it was kind of like The Real Housewives or whatever. There was the A-List of whatever. And it was really insufferable, like really just rich gay people being mean. And so I think there was an enduring association between, consumption and white male homosexuality. I wouldn't say the same for non-white characters, because sociologically and statistically, for instance, African Americans tend to be less wealthy than white Americans. So in The Wire, for instance, Omar, although he's a gangster, so he has his ways. I'm trying to think of other examples, but I can't think of other examples as salient as Shameless. I need to think, maybe, because I can't have all of them in my head at the same time, but I'm sure there are others. But I think the reason why, for the scarcity of such representation, is because there of this enduring association.
Moi, j'ai un exemple un peu décalé, puisque c'est une série britannique, mais c'est In My Skin. In My Skin, qui se passe, le personnage principal est une adolescente au lycée, les années lycée, et ça se passe dans, elle est lesbienne, et ça se passe dans un milieu très populaire en fait. C'était juste un petit exemple, si tu veux aller voir.
Ouais, mais justement, je pense que c'est la représentation en la matière, la représentation. Bon, déjà, effectivement, la différence de contexte est un peu différente. Enfin,
mais là, c'est très important, le contexte social dans le.
Ouais, dans le personnage.
C'est ici aussi, par rapport au contexte.
Ouais, bah, le fait que ça se passe pas aux États-Unis, enfin, je pense que les schémas sont pas tout à fait les mêmes. Et le fait que ce soit une lesbienne et pas un homme gay, c'est aussi. Parce que justement, dans la représentation stéréotypée des hommes gays et des lesbiennes, même aux États-Unis, n'est pas du tout la même. Et il n'y a pas du tout cette association, une association d'ailleurs du tout, entre les lesbiennes et le consumérisme. C'est presque le contraire, en fait. C'est DIY, voilà. De façon aussi stéréotypée d'ailleurs. Hein. Sauf peut-être pour. À un moment donné, dans les années 2000, il y avait beaucoup de représentations de lipstick lesbians, qui, pour le coup, étaient, elles, plutôt associées à des formes de consumérisme. Mais c'était pas du tout autant. Enfin, c'était pas autant un fait majeur que dans le cas des hommes gays.
Est-ce que dans le cadre de ta recherche, tu as eu l'occasion de faire un travail comparatif entre les séries américaines et les séries.
Non, pas du tout. C'est quelque chose que j'affirme, mais. A priori, je pense que les questions de représentation de classe sociale, je pense, sont vraisemblablement pas les mêmes. Enfin, les schémas de représentation de questions de classe sociale sont vraisemblablement pas les mêmes aux États-Unis et au Royaume-Uni, je présume.
Mais par rapport à la question du placard, est-ce que l'évolution.
Ah non, j'ai pas fait d'études comparatives, non. Non, c'est fondé sur voilà, donc là je suis pas expert du tout de la question, hein. Mais voilà, traditionnellement les séries britanniques ont tendance à s'embarrasser davantage de complexité que certaines séries américaines, enfin états-uniennes, donc il y a fort à parier que voilà, représentation justement du placard, enfin des arcs narratifs de placard, ou bien de justement de la subtilité de l'expression de ces identités soit plus grande au Royaume-Uni dans les séries britanniques que dans les séries états-uniennes, mais c'est un vilain cliché. Donc,
In My Skin.
In My Skin? Moi je connais Skins, mais
In My Skin, je crois que c'est encore disponible sur Arte.
D'accord. Ah ok, c'est une série récente?
2018, hein, j'ai regardé.
D'accord. Non, merci pour la référence.
Il y a une question là-dedans. Oui. Vous avez parlé de By the Rage. Et pareil, c'est ma question peut-être dans Game of Thrones, mais en fait, je voulais savoir s'il y avait une sous-représentation ou justement une sur-représentation de la bisexualité par rapport à des protagonistes qui vont être 100% gays ou 100% lesbiennes. Parce que, en fait, même dans les séries actuelles, on parle très peu de personnages de série qui peuvent être bisexuels et non pas soit lesbiennes, soit gays. Et du coup, je voulais savoir si vous avez des exemples des films séries qui vont.
Aborder la bisexualité.
Alors, on trouve très peu de séries de nos jours qui. Est-ce que vous pouvez répéter ce que vous avez dit, pardon?
Enfin, je regarde pas énormément de séries ou autres, mais en fait, j'en ai jamais vu de. J'ai jamais vu de séries ou de films qui justement abordent la bisexualité. En fait.
Est-ce que c'est. Donc, Madame Wells propose The Tales of the City. Je sais pas si c'est. Vraiment, si on peut vraiment l'étiqueter comme une série bi.
Une série bi, mais il y a un personnage qui est.
Bah, on en trouve et de plus en plus, parce que longtemps, justement, en lien avec ce que je disais, c'est-à-dire pendant longtemps, il a fallu savoir si les personnages étaient gays ou hétéros. C'est-à-dire, il n'y avait plus forcément besoin d'être dans le placard, mais il fallait s'identifier. Il fallait dire, voilà, je suis gay, je suis hétéro, je suis ci, je suis ça, mais il fallait savoir. Et donc, dans ce contexte-là, il n'y avait pas trop de place pour la représentation de la bisexualité, de la pansexualité ou de la fluidité globalement. Donc, il y a plus de personnages bi aujourd'hui. Disons que souvent, ça ne s'accompagne pas forcément d'un coming out. Donc, c'est pour ça que ces personnages, on peut souvent les identifier. Enfin, soit on les perçoit comme bi, ou soit on se dit comme qu'ils sont bi, soit on se dit qu'ils sont pansexuels. Bah, par exemple, dans le cas de Ambrose, son personnage avait posé problème, enfin, en tout cas posé la question, parce qu'il y avait des spectateurs et spectatrices qui disaient mordicus, ce personnage est bi, non, ce personnage est pan, ce personnage, voilà, ce personnage est omni. Bon, voilà. Et Mais donc, pardon, pour revenir à votre question, à ma connaissance, il n'y a pas vraiment de série étiquetée comme bi. C'est-à-dire, on va trouver des séries où justement, enfin, qui font la part belle à la fluidité. Je pense, par exemple, à Sex Education, ce genre de choses. Mais c'est pas une série bi. Et c'est pas une série fluide. Et c'est pas une série pan non plus. Je pense peut-être que c'est parce que quelque part, une série vraiment un peu à la Queer as Folk, où tous les personnages seraient bi ou seraient fluides, etc. Peut-être que on n'est pas encore, enfin, on n'est pas encore prêt. Peut-être que justement, peut-être que c'est une des survivances du placard, que ben ce degré-là de fluidité et de d'absence, enfin d'indifférenciation, en gros, des, enfin de brouillage des lignes entre les identités. Peut-être que justement, c'est enfin, nos sociétés ne sont pas encore tout à fait prêtes à ça. C'est une hypothèse.
Une sous-représentation, pas de la communauté en elle-même, mais juste de ce genre de film, dans le sens où, de série, dans le sens où on va... Enfin, comme vous dites, peut-être que nous, on n'est pas prêts à ce genre de fluidité, mais en attendant, du coup, il y a une sous-représentation de cette... partie de la communauté LGBT.
Bah, de moins en moins, mais disons que souvent, c'est pas, il y a pas d'étiquetage comme bi, quoi. C'est fluide ou indéterminé, et c'est plutôt les gens qui vont eux investir ces représentations avec ce balisage. Oui.
Du coup, qui dit qu'on va pas ici continuer sur ce que Léa disait et vous parliez justement de Queer as Folk et s'il n'y a pas de l'équivalence pour la bisexualité. Je trouvais ça intéressant parce que la série Torchwick...
Je ne l'ai pas vue.
C'est ça. Principalement parce que c'est le même auteur aussi que Queer as Folk. Et qu'effectivement, malgré le fait que tous les personnages aient des relations avec Constantin Tomby, il dit je ne crois pas que qu'aucun n'ait été étiqueté justement étant...
Il faut que je la regarde. Je ne peux pas répondre à votre question. Vous êtes plus à même de répondre à la question que moi.
It's not the topic of your paper today, but what I'm hearing is a lot of differences coming out about the representation between lesbian and gay characters, breaking down along gender identity lines. Why don't we want a lesbian best friend? Why do we want a gay best friend and not a lesbian one? What is the marketing behind these characters saying?
That's a good question. I think... why not a lesbian best friend?
Why is the gay best friend more fun than the lesbian best friend?
The lesbian best friend is in a couple and never leaves her house. There's a series that is starting in a few days called U-Hauled, which is a bunch of single lesbians in a house. What do you think will happen? I also just found there's a Wikipedia category, if you would like, of bisexuality-related television series at English Wikipedia. Okay. And there was a British show called The Bisexual.
Okay.
So it exists. But, I mean, I think that if we're going to play into stereotypes about Arcany, gay men are going to run around and be fabulous and drink margies with you. I mean...
Exactly.
I think Sex in the City.
I didn't want to... get all stereotypical about it, but I think, like...
I will do it for you.
Yeah, thank you. Thank you. But in terms of, yeah, stereotypical representation, I think, stereotypically lesbian best friend would be, I don't know, would build things with you, and perhaps in terms of fiction and drama, that's not considered as interesting as drinking martinis and painting the town red and buying handbags and girl, you're fabulous and that sort of thing. Because it also harkens back to that notion of consumerism and the exaltation of capitalism.
Well, and when a woman is a consumer, she's vain or too concerned in personal appearance. I mean, I think there's a really clear through line with like the representation of gay men as consumer with dandyism.
Mm-hmm.
Fendisiak, but like we can go back, I can show you lots of effeminate men. We are seen as very fashion forward.
Mm.
And so I think that there's, but if a woman's fashion forward, she's just fashionable.
Yeah.
And if not, is because often she can't pay it. But yeah.
There are examples though, it's just not as prevalent as with the gay best friend. I'm thinking about, is it Master of None? There's a friendship between a straight man and a lesbian woman, black lesbian woman.
I don't think I've Master of
None.
None. Okay.
Yeah. Alors du coup, c'est sur le même thème. En fait, tu me demandais ce qui en était de la représentation lesbienne aujourd'hui, parce que je sais qu'il y a quand même beaucoup de plaintes par rapport à la sous-représentation des lesbiennes dans les séries actuelles, notamment sur Netflix. Je sais qu'en fait, les séries dont les personnages principaux sont lesbiennes se font souvent annuler. Où je pense notamment il y avait une série, je ne me rappelle pas du tout le titre, je n'ai pas regardé, mais je parlais de vampires.
Ça s'appelle First Kill.
Voilà.
First Kill. One season and then it was an old, although technically it met all Netflix requirements.
Et à l'inverse, je pensais aux séries comme Your World ou Heartstopper, avec des personnages hommes gays comme personnages principaux qui font fureur et où en fait ça se voit en jambes, il y a eu plusieurs saisons, que ça n'a jamais calé.
Sometimes they shouldn't.
et aussi, je pense que ça soit transposable par la littérature, où en fait on a baissé plusieurs représentations de personnages principaux d'hommes gays et à tellement de personnages.
Oui, ça dépend sûrement du corpus. Après, c'est peut-être aussi une question d'accès à des positions, enfin, c'est peut-être un aspect matérialiste à la chose, c'est-à-dire, c'est des being a maker of culture. Voilà, c'est une position de pouvoir, et peut-être que il y a davantage un plafond de verre pour les femmes pour accéder à. Et a fortiori lesbienne, pour accéder à ces postes-là. C'est possible aussi. Hein.
Do you want a bibliography? Do you want me to send you a bibliography?
Are there some other questions? We had a little bit of a logistical situation here in a few minutes.
Go for it.
My question... Je peux la faire en français. Ma question, ça concernait le queerbaiting et l'impact que ça avait sur la réception des séries qui se revendiquent comme queer ou en tout cas diversifiées, en justement n'employant pas forcément des gens de la communauté LGBT. Est-ce que ça avait justement un impact sur ces séries?
Alors, il y a deux choses dans ce que vous dites. C'est à la fois le choix des acteurs, voilà, prendre des acteurs de la communauté... ou de l'identité, enfin voilà, en question, pour jouer ses rôles, et queerbaiting, donc là, c'est plutôt sur la question des récits en eux-mêmes, où on va, donc, bait, c'est vraiment faire des appels de phare sans jamais y aller, quelque part. Donc, c'est deux choses un petit peu différentes. La question de l'identité des acteurs, c'est un débat insoluble. Voilà, disons que le consensus, c'est d'essayer de donner ses rôles plutôt, enfin un consensus relatif, en tout cas dans des circonstances où l'accès à l'emploi, par exemple, est difficile, voilà, donner ses rôles à des gens avec ces identités, c'est un acte politique. Après voilà, c'est un débat sans fin. Où est-ce que a-t-on besoin d'être gay pour jouer une personne, enfin voilà, gay ou lesbienne? Je pense que c'est une question de moment aussi, c'est-à-dire c'était des critiques qui étaient beaucoup énoncées avant, parce que justement la norme et la règle, enfin la tendance, c'était de prendre des acteurs et actrices hétéros pour jouer des rôles gays. Ou des personnes cisgenres pour jouer des rôles trans. Les lignes ont un peu bougé. Voilà, il y a des personnes qui estiment que non, ça devrait jamais arriver. J'ai pas de réponse voilà, définitive à apporter à cette question. Je botte un peu en touche, désolé. Pour les questions de queerbaiting, bah, dans le cas de Sabrina, par exemple, c'est assez largement ça. Hein. On nous vend une woke witch qui est censée donc voilà, faire partie d'un couvent qui est fluide, voilà, et dans les faits... bon, voilà, c'est pas ce qu'on a, quoi. Donc, je sais plus, quelle était votre question exactement à propos du queerbaiting?
La réception, est-ce que ça impacte la réception de la série
La réception de la série, bah, y a toujours une partie, effectivement, des gens qui dénoncent le queerbaiting. Après, souvent, les séries qui font du queerbaiting, en fait, elles ciblent pas prioritairement des personnes LGBT, Q+. Elles ciblent large un public qui a, on va dire, pour le dire vite, pour schématiser, un public progressiste, qui va se reconnaître dans... ou qui va pas être heurté par la représentation, justement, de sexualité autre, ou même, enfin, de gestes ou d'interactions affectives, on va dire, au sens large, pour, entre des personnages, mais qui ne vont pas forcément très loin ou qui sont superficiels. Ça leur convient. Ça risque d'énerver, effectivement, peut-être une partie du public, mais qui reste mineure et qui ne va pas forcément empêcher la série d'être renouvelée.
Sauf question pressante, on va peut-être bientôt terminer.